À première vue, rien n'a changé. Athènes s'étale entre le Pirée et l'Acropole, sous le Cagnard. 5 millions d'habitants croisent toujours les mêmes cohortes de touristes. Les embouteillages n'ont rien perdu de leur vitalité et une charmante indolence berce la ville. Ce jour-là, tout semble comme avant la crise. Alors ce panorama est un trompe-l'œil, comme ce bus qui débouche quartier Kolonaki. Je croyais trouver Athènes en pleurs, et voici qu'ici Athènes chante et les voix sont magnifiques. Le bel canto serait-il descendu sur le pavé? Mais qu'est-ce qui leur a pris à ces sopranos et ces ténors d'aller à la rencontre des habitants? Il faut comprendre. Je monte les voir sur leur scène automobile.
Cette initiative est très importante parce que nous traversons en ce moment une grave crise économique. La situation est catastrophique. Plus rien ne va. Donc c'est bien que dans une période comme celle-là, on puisse amener la musique aux gens.
On essaie de donner un peu d'optimisme, d'alléger les souffrances des gens dans cette période difficile.
Les solistes et les chœurs de l'Opéra d'Athènes offrent leurs talents, leurs élans et leur joie à une population qui, au fond d'elle-même, est groggy, assommée par le poids de la dette. Leurs dirigeants les entendent fumer depuis des décennies. Et un jour, voici plus de 2 ans, ils découvrent l'ampleur du sinistre. En octobre 2009, les socialistes, le PASOK, remportent les élections. Leur leader, Georges Papandréou, devient le premier ministre de la Grèce. Aussitôt, il tire la sonnette d'alarme. Son rival de droite, l'ancien patron du pays, Kostas Karamanlis, a maquillé les chiffres. Le déficit de la Grèce est 2 fois plus important qu'annoncé. La dette publique du pays atteint un niveau abyssal, 340 milliards d'euros, sauf qui peut. Petros Markaris est écrivain de polar, auteur de scénarii, fin observateur de la société grecque, sa cible, la classe politique.
Vous avez l'habitude de parler essentiellement du crime économique. En disant, il y a crime économique sur la Grèce. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça?
Je dois vous dire que tout l'État grec, depuis l'entrée dans l'Union européenne jusqu'à présent, a survécu grâce à des rapports de clientélisme et des rapports de corruption. Je ne dis pas que tous les Grecs faisaient partie de cette clientèle, ni que tous les Grecs étaient corrompus. Mais même nous qui ne l'étions pas, on l'a toléré. Parce que pendant cette période, tout allait bien pour nous. Vous savez, c'est comme quand on prend des drogues. Au début, tout va bien. C'est après que la destruction arrive. C'est à peu près comme ça que les citoyens grecs ont vécu, comme sous sédatifs, en faisant de beaux rêves. Après, l'heure du réveil a sonné et ce réveil a été catastrophique.
Aujourd'hui, la Grèce doit payer, pas seulement pour la dette, mais aussi pour son insouciance et ses tricheries. Les Evzones de la garde présidentielle peuvent toujours faire les beaux aux portes du palais. Le pays, lui, est en lambeaux. Note à la baisse, déficit à la hausse, le bulletin de santé est si mauvais que l'Europe et l'international de la finance hésitent à se pencher sur le malade. Il agonise et les perfusions qui deux fois déjà ont été posées par le Fonds monétaire international et l'Union européenne ne sont pas parvenues à le sortir du coma. Il faut pourtant sauver la Grèce pour se sauver soi-même. Alors on paye. Mais la Grèce doit marcher au pas. En 3 ans de récession, la population est au bord de l'asphyxie. La rue ne veut pas mourir sans combattre. Pas un jour sans grève, sans manif, et ça bastonne gravement. Tous ne se révoltent pas. Ils subissent, comme ici, à Vati, à 60 km au nord d'Athènes. Un millier d'habitants, une vie paisible, pas de chômage, que du bonheur. C'était dans l'ancien temps, dans l'avant-crise, et ça paraît si loin aujourd'hui. Maria et Yanis faisaient partie de ces familles promises à une vie sans encombre. Après plusieurs années passées à Athènes, ils décident de revenir dans le village natal de Maria lorsqu'elle tombe enceinte. Les parents leur ont donné un terrain. Grâce à leurs 2 emplois, ils ont pu facilement emprunter pour construire la maison de leurs rêves.
En fait, quand on a obtenu l'accord pour notre crédit, tout allait bien. C'est vrai, on était heureux. On gagnait pas mal d'argent et on ne se faisait pas de soucis.
Maria, la journaliste, a épousé Yanis, courtier bancaire, en 2007. La maison est en chantier quand le journal qui emploie Maria ferme ses portes. En 2010, elle trouve un job dans la pub. 6 mois plus tard, l'agence ferme sans lui avoir versé aucun salaire. En Grèce aussi, c'est la classe moyenne qui trinque la première. Aujourd'hui, le couple n'a plus que la paye de Yanis pour vivre.
En ce moment, je gagne 1300 euros net. Il y a 2 ans, j'en gagnais 2200.
Et avec mon salaire, il y a 3 ans, on gagnait plus de 3000 euros.
On a pris un crédit sur 35 ans et on paye chaque mois 730 euros. À ça, il faut ajouter ce que je dépense pour aller travailler tous les jours à Athènes. Ça revient à 500 euros par mois.
Du coup, on est obligé de puiser dans le peu d'épargne qui nous reste. À ce train-là, on n'aura plus rien à Noël.
Les perspectives, pas bonnes. La banque qui emploie Yanis prévoit de baisser encore les salaires. 10% en moins l'an prochain.
L'an dernier, ou il y a 2 ans, on n'imaginait même pas qu'on ne pourrait plus partir en vacances. Ou qu'on ne pourrait plus faire nos courses au supermarché. Ce n'est pas une descente aux enfers qu'on vit, c'est une chute libre.
Et pour votre crédit, vous allez faire comment ?
Ben, c'est sûrement notre fille, Mika, qui finira de le rembourser. Et si ça continue comme ça, ce seront peut-être même les enfants de Mika qui paieront. On y pense parfois.
Vous vous sentez déprimé ?
Complètement. Moi, j'aurais voulu faire un deuxième enfant et je ne peux pas. Pas en ce moment. Et en plus, je suis là, je tourne en rond et je ne sais pas quoi faire pour aider ma famille.
À Vati, Maria et Yanis sont à la peine. Mais c'est tout le village qui a la gueule de bois. Les entreprises du coin ont fait faillite, beaucoup d'habitants se sont retrouvés au chômage. Du coup, tous les commerces, ou presque, ont baissé le rideau en l'espace d'un an. Pour Maria et sa mère, triste balade dans un village fantôme.
Imaginez qu'ici c'était le centre, il y avait toujours du monde. Avec le café, la supérette, l'autre magasin là-bas, le bistrot d'en face. Maintenant, tout est à vendre ou à louer.
Il reste encore une dernière épicerie dans le village, mais les propriétaires, un jeune couple, n'y croient plus. Les rayons crient famine, les prix ont augmenté, Et l'État, pour renflouer ses caisses, vient de passer la TVA de 13 à 23%. Peut-on vivre avec moins que le minimum ?
Les prix ont augmenté parce que les charges ont augmenté aussi. C'est un problème pour les commerçants. Ils n'osent pas tout répercuter sur les prix. Et nous, on essaye de les soutenir. Mais ils sont en difficulté. Allez-y, dites-leur. Vas-y, Roxane, raconte.
Oui, tout augmente. Le loyer, l'électricité, l'eau. On galère, nous aussi. Avant, on acceptait de faire des ardoises. Mais on a décidé d'arrêter, parce que beaucoup de gens ne sont jamais revenus. Donc non seulement on perd des clients, mais on perd aussi l'argent qu'ils nous devaient.
Ah, c'est pour ça alors que vous avez mis cette note là derrière vous. La maison ne fait pas crédit.
Et comment vous voyez le futur du village ?
De quoi ?
Quel futur ? Il n'y a pas de futur. Et pas juste pour le village.
Vous allez partir à l'étranger ?
Oui. Rejoindre son cousin.
Écoutez ça, on revient aux années 60. On revient à l'époque où tout le monde quittait la Grèce pour aller travailler en Allemagne, en Australie. Voilà où on en est. On va devenir à nouveau un pays d'émigrés.
En Grèce, le chômage des jeunes dépasse déjà les 40%. Et il s'aggrave. 70% d'entre eux voudraient quitter le pays. 68 000 PME ont été balayées, fermées en une année. Voici Stelios Stavridis, roi de la piscine et chantre du libéralisme. Un patron dynamique, prolixe, paternaliste et très avenant. Pendant 30 ans, il s'est battu pour hisser son entreprise à la tête du secteur. Aujourd'hui, sa société prend l'eau, c'est un comble, et il licencie à tour de bras.
Il y a des bureaux qui sont à moitié occupés. Vous voyez, ici.
Non, mais laissez le carton, il n'y a pas de problème.
Hein. Hop là, voilà.
Les cartons, c'est un signe, comme quoi ça déménage, ça réaménage des fois. Mais
et ici, on avait trois places de travail, et le bureau est complètement vide.
Et si vos employés oublient qu'ils travaillent pour une entreprise de piscine, c'est impossible, hein. Il y en a partout.
On avait 115 personnes et nous sommes maintenant seulement 35 parce qu'on construisait en 2008, on a construit ici en Grèce, nous, 1190 piscines dans un an. Cette année, on ne va pas construire plus que 180-200 piscines. Alors, beaucoup moins de gens, beaucoup moins de gens dans les bureaux et beaucoup moins des équipes de construction, hein. Parce qu'on a beaucoup moins du travail, c'est clair.
Idéal. C'était avant, là aussi.
Vous évitez d'aller où ?
En Grèce, la construction, c'est l'hécatombe. La production a chuté de 80%. Stelios considère ses employés comme ses protégés, ses enfants même. Et pourtant, il doit s'en séparer.
Ah, ici, ah, ça, c'est plus les piscines. Hein.
Ici, non, c'est l'espace showroom.
Oui.
On a des très bons spas. Andreas Marinis. C'est un électricien qui est avec nous. Pourquoi ça connaît, Andrea?
8 ans et demi.
8 ans et demi qu'on a dû licencier la semaine passée.
Et il est là?
Il est là pour dire au revoir aux amis, etc.
Mais vous savez, en France, un licenciement, ça ne se passe pas aussi cool. Hein?
Il est comme. Il est membre de notre famille. On n'a pas assez du travail, il comprend.
Vous avez l'air de prendre ça, vous revenez voir le patron, l'entreprise, c'est assez cool.
Ton permis poli.
Comment ça se fait ?
Pourquoi ça se fait ?
Je n'en veux pas, mon patron.
On a toujours eu de bonnes relations. Et puis je comprends la situation. Et surtout, j'espère que si ça va mieux, il pourra me reprendre l'année prochaine.
Est-ce que vous touchez ? Une allocation pour le chômage.
Oui, je vais y avoir droit. Et j'espère aussi que je pourrai rapidement retrouver du travail.
Mais c'est quoi les autres possibilités ?
Eh bien, je me donne un an pour trouver. Et si la situation ne s'améliore pas en Grèce, je pense partir en Australie.
Allez, salut Andreas. Et surtout, ne pars pas en Australie. Hein. Reste ici avec nous pour te battre.
Bye bye.
Visite avec Stelios. Dans ce quartier, les bétonneuses et les grues se sont tues.
On n'a pas besoin de casser la vitre, là.
Non, non, on peut...
Les chantiers semblent pétrifiés. Les piscines ne sont que des fosses inachevées, et pourtant Stelios, le volontariste, veut y croire. Encore.
Vous êtes un peu optimiste, quand même.
Je suis optimiste, oui. Ouais. Je suis optimiste.
C'est la méthode Coué, je suis optimiste. Non, pas du tout.
Il faut prendre les bonnes décisions et avoir la bonne culture. Pourquoi on ne peut pas avoir la bonne culture? Pourquoi les sociétés scandinaviques marchent? Pourquoi on ne peut pas marcher nous?
C'est quoi la solution pour vous?
Il faut voir la réalité. Il faut dire la réalité comment elle est. Il faut...
Mais quand vous dites qu'il faut dire la réalité comment elle est, vous pensez qu'aujourd'hui, les gens mentent?
La vérité, bien sûr.
Ils mentent sur quoi?
Le système politique ne nous dit pas la vérité. Il ne nous dit pas la réalité. Il monte. Il y a des gens parmi les Grecs qui pensent que l'âge d'or peut continuer.
Et vous avez vos habitudes.
Ah oui, oui. Nos habitudes, on va sur les îles, je vous invite à Céphalonie, on va passer un bon moment, boire l'ouzo, et on dit aux Européens, vous, c'est votre problème. C'est pas ça, c'est notre problème.
Pour les Grecs, tout est d'abord la faute des politiques. En voici un, et pas des moindres.
Ogilus Abalien.
Comment allez-vous?
Le vice-premier ministre grec, le numéro 2 du pays, le bras droit de Papandréou.
Vous savez, moi, j'ai dit 4 mots par lesquels je suis devenu fameux dans le débat politique en Grèce, et même odieux, je veux dire, pour une grande partie de la population. Et ces 4 mots, bon, je vais essayer de traduire, c'était nous avons gaspillé tous ensemble. Et c'est la chose qui est inacceptable parce que très peu de groupes sociaux reconnaissent leur participation dans ce qui est notre problème actuel, c'est-à-dire la faillite des finances publiques. Le problème de la Grèce se limite à ça. Nous ne sommes pas un pays pauvre, nous sommes un pays où l'État, pendant des années, a gaspillé l'argent public en dépensant plus que ce qu'il encaissait. Alors pourquoi c'est ce système?
Le problème, c'est que quand cette vérité vient des dirigeants politiques, alors elle est déjà moins
crédible. Il est clair que les dirigeants politiques sont responsables plus que tout autre. D'abord parce qu'ils sont plus hauts, parce qu'ils sont plus intelligents, par définition.
Normalement,
n'est-ce pas? Et en plus parce qu'ils ont bénéficié du système.
Ce mea culpa omet de dire que les grands punis dans l'affaire, ce sont les plus faibles, victimes du gâchis orchestré par les puissants. Exemple le plus spectaculaire de la dérive grecque, les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Souvenez-vous, une inauguration en grande pompe sous l'égide de la présidente du comité d'organisation Giana Angelopoulos, l'épouse de l'un des plus gros armateurs grecs. Athènes, transformée en un chantier digne des travaux d'Hercule, des dizaines d'installations ultramodernes créées de toutes pièces et un retard monstre dans la finition des stades. 7 ans après, retour sur les installations olympiques. Le mirage des Jeux s'est envolé, la quasi-totalité des sites est à l'abandon, les amateurs de modélisme en profitent, les promeneurs y font pisser leurs chiens. Avec la crise, on ressort les dossiers. Le chantier des Jeux Olympiques devait coûter 2 milliards d'euros. Le coût final serait de 9 milliards selon le gouvernement. Mais des experts indépendants affirment que la facture réelle s'élève à 18 milliards d'euros. Un accident industriel rarement égalé. Sur l'Oaka, le principal site des Jeux, Foula Pharmadakis me montre les éléphants blancs, comme disent les Grecs en colère. Cette jeune cadre commerciale fait partie d'une commission citoyenne chargée d'éplucher les comptes de cette gabegie financière.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant, oui. Mais c'est surtout très triste.
Quel gâchis.
C'est un énorme gâchis, ce qui est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être profitable pour le pays. Mais ceux qui ont fait ça n'étaient intéressés que par le profit rapide. Ils ne se sont pas intéressés à l'après, à savoir comment la Grèce pourrait exploiter ces installations.
Alors, vous, avec quelques amis, enfin avec un groupe de gens, vous essayez de savoir ce qu'est devenu l'argent qui, normalement, devait financer l'ensemble des Jeux Olympiques, mais dont une partie, semble-t-il, a disparu.
Oui, notre but principal est de découvrir enfin combien les Jeux Olympiques ont réellement coûté. Qui est mêlé à cette affaire? Quelles sont les entreprises qui ont participé à la construction de toutes ces installations? Et surtout, de déterminer si vraiment toutes ces dépenses étaient justifiées.
Et alors, c'est quoi votre conclusion?
Il est certain qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Par exemple, l'aménagement du stade olympique. Le budget initial était de 3,1 millions d'euros. Son coût final a été de 399 millions. Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont volontairement sous-évalué le coût des Jeux olympiques. Mais il y en a surtout un certain nombre qui s'en sont mis plein les poches.
Et vous êtes arrivé à trouver des gens qui ont profité, qui ont mis de l'argent dans la poche? Dis-moi la vérité, quoi.
Oui, bien sûr que oui.
Vous avez identifié des gens?
Oui.
Qui?
Je ne sais pas si je peux vous le dire devant la caméra, parce qu'il y a plein de gens connus mêlés à cette affaire.
Si jamais personne dit qui triche, il ne peut pas y avoir de sanctions, il ne peut pas y avoir de jugement, donc ça va continuer. Or, votre groupe, il essaie d'assainir les choses.
Les premiers responsables, c'est le comité d'organisation des Jeux Olympiques et ceux qui ont embauché le comité.
C'était qui le président du comité olympique grec? On a un nom?
Diana Angelopoulos, la présidente du comité d'organisation. C'est par elle qu'il faudrait commencer.
Et vous, par votre action, vous espérez qu'il va rendre compte de ces malversations ou pas?
Ça va dépendre de comment le peuple va nous soutenir et aussi des obstacles qu'on mettra sur notre route.
L'entretien et le gardiennage des sites olympiques coûtent 50 millions par an aux Grecs. Aucun responsable n'a été ni inquiété ni sanctionné et l'ancienne présidente du comité d'organisation continue de se pavaner. Et pourtant, c'est bien à partir des Jeux que les finances publiques grecques ont vraiment dérapé. Ceux qui disent non transforment régulièrement la place Syntagma, face au Parlement, en un forum de la résistance. Assez de ce système clientéliste et corrompu, assez de ces mesures de rigueur imposées par l'Europe et le FMI, ils se regroupent sous la bannière des indignés, ce mouvement qui a fait des émules en Espagne et en Israël. Ici, pas de leader, pas de porte-parole officiel. C'est désorganisé. Le mouvement se veut citoyen, ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, altermondialistes, extrême-gauche, patriotes, pop-dissidents et amateurs de câlins gratuits. Voilà. Leur slogan, changer le système politique. Leur bête noire, le libéralisme mondial. Vous vous indignez contre quoi?
On est indigné, mais on n'est pas juste indigné. On a une expression en grec qui donnerait à peu près ça en français. On en a marre. Ça veut dire qu'on est arrivé à nos limites, on n'en peut plus. Donc on est contre tout ce modèle de société libérale qu'on essaye de nous faire passer comme étant la seule option. Alors que ce n'est pas vrai.
Vive la Révolution française. Vive Robespierre.
Les plus radicaux refusent la mise sous tutelle de la Grèce par la Troïka, FMI, Union européenne, Banque centrale européenne. Ils réclament l'annulation pure et simple de la dette. Cet homme fait partie du mouvement d'Implirono. En français, je ne paie pas. Il a fait 350 km pour distribuer son petit journal.
Nous croyons que la dette qu'on nous impute n'est pas une dette réelle, que c'est une dette fabriquée par des usuriers avec la collaboration des politiciens de chez nous qui ont volé le peuple grec. Du coup, cette dette qu'on nous demande de payer ne nous concerne pas.
Le capitalisme aux chiottes et les banques avec, refrain connu. Pourtant, ce discours gagne du terrain et l'hostilité affichée contre l'Europe finit par surprendre. Leonidas Vatikiotis est économiste, proche des indignés. Il a écrit un livre, « Deptocratie », et co-réalisé un documentaire du même nom. Des mots et des images pour affirmer qu'il faut effacer la dette et sortir de l'Union européenne.
D'accord, donc l'Union européenne a favorisé, de votre point de vue, la dette grecque.
Tout à fait, oui. L'Union européenne est responsable du niveau que la dette publique grecque a atteint. Un de nos arguments est qu'une fois que la dette a dépassé 60% du PIB, le seuil prévu par le traité de Maastricht, cette dette n'aurait pas dû être acceptée par l'Europe, c'est-à-dire qu'elle aurait dû être considérée tout de suite comme une dette illégale et non viable. Une dette odieuse. Et la seule et unique solution qui pourrait résoudre ce problème économique, le problème de la Grèce, c'est l'arrêt des paiements et la suppression, si ce n'est de la totalité de la dette, d'au moins une large partie de celle-ci. Toute autre solution comme de continuer à prêter de l'argent à la Grèce, alors qu'on sait qu'elle ne peut pas rembourser, c'est comme d'aller dans le mur, c'est se rapprocher un peu plus de la faillite.
Est-ce que vous avez envie, vous économistes, avec vos amis, d'empêcher cette faillite, ou au contraire, vous la souhaitez ?
Nous, bien évidemment, on rejette la faillite, parce que nous savons que celui qui subira les conséquences sera le peuple grec, en tout cas la grande majorité des citoyens. Pourquoi l'État devrait payer, alors que cette dette a un coût social si élevé ? Pour que la Grèce puisse payer ses créditeurs ? Il faut savoir que la plus grande partie du budget de l'État grec sert à payer les intérêts de la dette, et non à payer les salaires ou les retraites. Pour que la Grèce puisse continuer à servir ses créditeurs, elle fermera cette année 1056 écoles et aussi 54 hôpitaux. Et pour la première fois dans notre histoire, les enfants des écoles primaires n'auront plus de livres gratuits. Donc la Grèce revient aux années 50 pour rembourser une dette publique qui n'est pas gérable. C'est pour cela que nous disons qu'elle ne doit pas être payée.
Le remède serait-il pire que le mal ? Dans les soupes populaires à Athènes, de plus en plus de Grecs se mélangent aux immigrés clandestins. La communauté internationale, qui vient d'accorder un deuxième prêt pour sauver le pays de la faillite, a réclamé en échange des mesures brutales. Baisse des salaires, certains Grecs ont perdu 50% de leur pouvoir d'achat, suppression de 150 000 postes dans la fonction publique, suppression de nombreuses allocations, hausse générale des taxes et des impôts. Comme dans un pays en guerre, les civils se jettent sur les anxiolytiques et les antidépresseurs. Les plus fragiles craquent. Le 10-18, le numéro d'urgence, il est assailli. Depuis la crise, 50% de suicides en plus. À l'association Climaca, où arrivent ces appels, 5 personnes se relaient 24 heures sur 24 au téléphone. Parmi eux, un psychiatre qui consulte aussi par téléconférence. Le psy parle avec Christos. Après avoir perdu son emploi, ce petit entrepreneur des Cyclades a divorcé, tenté de se suicider. Aujourd'hui, il vit sous psychotrope.
Comment tu te sens par rapport à avant ? Psychologiquement, tu te sens mieux ?
Ces 10 derniers jours, j'ai beaucoup mieux dormi. C'est mieux car avant, je me réveillais toutes les heures. Je n'ai plus de pensées négatives. Toutes mes pensées sont plus positives. Toujours pour le mieux.
Les ravages sont terribles au sein des familles grecques. divorce, violence conjugale, adolescent à la dérive.
Tout ça, c'est la faute de la crise économique. Sans pouvoir me rendre compte, ça a affecté toute ma vie. Jusqu'ici, tout roulait bien. Je n'aurais jamais cru en arriver là.
On voit qu'il y a un fort impact de la crise sur la santé psychique des Grecs. Le soutien psychologique nous a permis d'observer des choses qu'on ne voyait pas avant. Les gens qui viennent consulter aujourd'hui ne seraient jamais venus il y a quelques années. Ce qui ressort de cela, c'est qu'ils ont perdu la capacité de rêver.
Les Grecs paient très cher la facture de la rigueur. Faut-il pour autant, comme le réclament les indignés, refuser de payer la dette et quitter l'Union européenne? La réponse du vice-premier ministre grec est cinglante.
Est-ce que je peux m'exprimer librement?
Mais bien sûr.
Aussi librement que général de Gaulle.
Oui, allez-y.
Ça, ce sont des communistes, ce sont des fascistes, et ce sont des cons. Comment est-ce que cette dette a été créée? Parce qu'ils nous ont prêté de l'argent. Ils nous ont prêté de l'argent parce qu'on avait la dette.
Alors, si on repart un peu de la population, eux, directement, ils ont déjà pris, ils commencent déjà à prendre ce coup, ce coup sur la tête.
Il faut dire pour les spectateurs français que nous ne savons pas fait parce que nous sommes des sadiques, n'est-ce pas?
Oui.
On avait une cessation de paiement devant nous.
Oui.
Et on a eu, grâce à la solidarité communautaire, un prêt. Mais ils ont imposé certaines conditions.
Je suis d'accord, mais les deux classes politiques sont quand même critiquées.
Il y a le parti du gouvernement qui applique cette politique qui est bien connue, qui est très désagréable, qui est très difficile à faire passer, mais nous sommes décidés de la mener jusqu'au bout.
Et il appliquera les ordres venus de Bruxelles, entre autres, une série de privatisations. Le célèbre Pirée, le port d'Athènes, depuis toujours une fierté pour les Grecs. Aujourd'hui, le symbole du bradage du pays. La Troïka impose un programme de privatisation de 50 milliards d'euros. La plupart des grandes entreprises publiques sont concernées. Le port commercial du Pirée est passé en partie depuis 2 ans aux mains du privé. Pire, il est livré aux étrangers.
Dans quelle partie du port du Pirée on se trouve là exactement?
Ici, c'est la partie la plus importante du port. C'est ici que se trouve le principal terminal de containers desservant toute la Grèce. Et c'est aussi un point stratégique du trafic commercial pour toute la Méditerranée.
Ici, il y a la partie bleue et la partie jaune-orange. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi ces deux couleurs?
Le terminal des containers du Pirée est divisé en 2 parties. Le bleu, c'est celui qui a été concédé pour une durée de 35 ans à une compagnie chinoise appelée Cosco.
Cosco, le numéro 5 mondial des transports. Pour les Chinois, la crise grecque est une aubaine. Le Pirée doit devenir leur port d'entrée vers l'Europe. Exceptionnellement, ils nous ont accueillis sur leur terminal. Leur directeur commercial adjoint vante leur efficacité.
La durée moyenne de prise en charge d'un conteneur est de moins de 7 minutes, alors qu'avant, les camions passaient 1 heure, voire 1 heure et demie à faire la queue en attendant ici.
16 caméras scannent les camions et leurs cargaisons, les quais, les grues, toute l'infrastructure du port est en train d'être modernisée.
Le plus important, c'est l'investissement. On ne reste pas assis à attendre les cargos. Vous voyez ici la construction d'un nouveau quai. Ce sera fini d'ici la fin octobre, avec 2 ans d'avance sur le contrat de concession.
Cosco a déboursé 4,5 milliards d'euros pour obtenir la gestion des 2/3 du port commercial. C'est le plus gros investissement chinois en Europe, inauguré par les premiers ministres grecs et chinois en personne. Le plus souriant sur la photo, c'est lui, le patron de Cosco pour l'Europe, le capitaine Fu Chengqiu. Il compte bien doubler la capacité d'accueil du Pirée d'ici 1 an.
Ça, c'est la porte d'entrée du port. S'il y a un embouteillage, je le vois tout de suite. Et j'appelle immédiatement le manager pour qu'il arrange ça.
Mettre en place cette efficacité à la chinoise n'a pas été simple. Lorsque Cosco est arrivé, les dockers du Pirée se sont mis en grève et ont bloqué le port pendant plusieurs semaines.
La difficulté principale pour nous, ça a été de changer un peu les mentalités des gens qui travaillaient sur le port. C'était un peu le style ottoman, comme on dit. Il y avait pas mal de dessous de table et les procédures n'étaient pas très claires. Au début, les Grecs nous ont dit « Cosco, rentrez chez vous ». Ils s'inquiétaient car ils pensaient que beaucoup d'ouvriers chinois allaient venir pour travailler ici. Les dockers craignaient de perdre leur emploi. Mais nous leur avons donné leur chance et engagé beaucoup d'employés locaux.
Mais les 500 salariés grecs doivent se plier aux habitudes maison. Beaucoup de sous-traitance et d'intérim, pas de syndicat ni de convention collective.
On a une grosse direction des ressources humaines qui s'occupe de toutes les requêtes du personnel. On s'occupe aussi de leur famille. Donc, nous ne voyons pas, ils ne voient pas de raison pour l'instant de monter un syndicat.
Vous avez repris les dockers qui travaillaient ici avant ?
Non, les gens qui étaient employés ici continuent à travailler sur l'autre terminal, celui qui appartient à l'État grec.
De l'autre côté du port, les Grecs sont toujours aux commandes. Le terminal est géré par une société d'État. Sur ce bassin-là, le syndicat des dockers fait la loi. Georgios Papavassiliou, son secrétaire général, a du mal à digérer la cuisine chinoise.
Chinese go home. C'est vous qui avez écrit ça ?
Oui, tout à fait. Ce sont des collègues d'ici. Cela illustre bien le point de vue de tous les salariés du port du Pirée. Ils considèrent que le port peut rester sous l'autorité grecque et qu'il devrait rester sous contrôle de l'État.
Est-ce que vous pouvez me dire combien gagne un docker ici, combien gagne un docker là-bas ? Pour le même temps de travail.
Ici, le salaire mensuel d'un employé avec 20 ans d'expérience, marié avec deux enfants, c'est d'environ 1 500 euros. Là-bas, les salaires sont différenciés selon le statut. C'est-à-dire que Cosco a ses propres employés, mais il travaille aussi avec des sous-traitants, des employés à trois vitesses qui ont d'autres salaires. La différence peut dépasser les 500 euros par mois.
C'est-à-dire que vous avez peur qu'ils appliquent pour vous les mêmes conditions de travail.
C'est exactement ça. Et vous savez, tout ça ne s'applique pas seulement à Cosco. Cela va se répandre autour de nous, ailleurs et partout.
Les Grecs redoutent les privatisations. Leur pays n'est pas à vendre. Et le secteur public compte 1 million de personnes, 1 salarié sur 5. Les fonctionnaires craignent d'être décimés. Petros Markaris souligne l'hypertrophie du secteur public.
La Grèce a créé un système, je ne sais pas comment on dirait ça en français, je dirais nourri par l'État. Tout le monde attendait tout de l'État. Le problème, à mon avis, se trouve exactement ici. Comment est-il possible que les Grecs soient aussi fortement attachés à un État qui, depuis que cette crise a commencé, ne pense qu'à se protéger lui-même ?
Ça reste un mystère pour vous ?
Oui, mais je crois que les Grecs vont comprendre, même si je ne peux pas prévoir combien de temps ça va prendre, que la première chose qu'il faudrait faire, ce serait de couper le cordon ombilical avec l'État. Quel homme d'affaires en Europe confierait à un manager qui a fait couler son entreprise la tâche de la ressusciter ? Aucun.
La classe politique est carbonisée. L'État n'a plus rien de providentiel. Des Grecs commencent à prendre leur destin en main, par petites touches. En attendant, c'est bien la famille qui reste la dernière bouée de sauvetage, la seule qui puisse éviter la noyade. Retour à Vati, le village où vivent Maria et Yanis. Ce dimanche, ils se rendent en famille à la messe. Après tout, si Dieu peut donner un coup de main.
Est-ce qu'on peut dire que finalement, la seule chose qui n'est pas changée dans votre vie et en Grèce, depuis tous ces mois, c'est l'Église?
Oui, c'est notre espoir. On espère que la Vierge et le Seigneur vont nous aider pour que tout s'améliore. Pour notre santé, notre famille. C'est pour ça qu'on prie.
Enfin, nous, les jeunes, on n'y croit pas tant que ça. Mais les anciens essayent toujours de nous amener à l'église dans l'espoir que la Vierge nous aide à sortir de la crise.
L'église orthodoxe, fastueuse, omniprésente, ancrée au plus profond de la culture grecque. Sa hiérarchie commence à être montrée du doigt. Trop peu solidaire en ces temps de crise. Premier propriétaire foncier du pays, elle possède quelques entreprises prospères, les peuples les plus puissants roulent en voitures de luxe et pourtant, l'Église ne paye pas d'impôts. En dehors du pain béni qu'elle distribue généreusement, elle est plutôt radine. Mais aujourd'hui, un petit air de messe, ça ne suffit pas. La solidarité familiale, c'est plus sûr qu'une bénédiction. Et les parents sont les derniers remparts. Ceux de Maria possèdent la dernière auberge encore ouverte du village. Mais eux aussi commencent à fléchir. Personne ou presque ce dimanche dans leur taverne.
Ça n'a pas l'air d'aller fort, hein, ça va pas?
Non, pas du tout.
Vous regardez depuis un moment la terrasse qui est vide, vide complètement.
Oui. Il y a 2 ans, sur cette place, il y avait 300 chaises et plein de clients. Aujourd'hui, il y a à peine une cinquantaine de chaises.
Avant, on employait 5 personnes ici. On a dû licencier tout le monde.
Vous perdez de l'argent en ce moment ici.
On met 2000 euros tous les mois dans ce restaurant.
Ce sont nos économies qu'on investit pour pouvoir continuer à travailler.
Bon. Alors on va manger ici, nous. Voilà, ça fera déjà quelques clients.
Dans la taverne, plus jamais de coups de feu en cuisine. Mais ils sont tous là à s'activer pour faire semblant d'exister. Même la petite sœur étudiante met la main à la pâte. Ça semble dérisoire. Pour eux, c'est essentiel.
Est-ce que vous lui donnez de l'argent quand elle travaille avec vous?
Quand on fait des bénéfices, oui, on essaie de les aider. Mais rien n'est sûr. Il n'y a rien de régulier. De toute façon, ici, on ne gagne plus assez pour faire vivre à la fois Maria et nous. Il faut absolument qu'elle retrouve du travail. Et malheureusement, il n'y en a pas.
Maria, est-ce que ça vous aide un peu quand même?
Oui, c'est sûr. Et surtout, on n'a pas besoin d'acheter de viande. Mon père nous en donne. Ni de fruits ou de légumes. Tout ça, c'est mon père qui l'achète pour nous.
La famille a servi de secours, en quelque sorte.
Oui, on aide autant qu'on peut pour entretenir les enfants. Pour soutenir notre fille qui fait ses études à Athènes.
En Grèce, vous savez, les mamans considèrent qu'elles ont l'obligation d'aider leurs enfants à vivre. Et ma mère souffre de cette angoisse. Elle ne peut plus nous aider comme elle nous aidait autrefois.
L'auberge a bien failli fermer. Passera-t-elle l'hiver? Qu'il semble loin, le temps de l'abondance.
Voilà comment était la place. Regardez le monde qu'il y avait.
Vous aimiez bien ce temps-là?
Évidemment, de voir notre taverne pleine, c'est important pour nous, même si ça ne rapportait pas beaucoup.
Moi, je suis nostalgique. Je deviens nostalgique quand je pense à ces soirées. De voir la taverne pleine de monde et toute la famille au travail. Et aujourd'hui, on aimerait pouvoir se réjouir de nos efforts. Mais malheureusement, on ne peut pas, car lorsqu'on regarde autour de nous, on voit qu'il y a toutes ces entreprises qui ferment. Et on a peur que ça nous arrive aussi.
La terrasse reste désespérément vide. À l'extérieur, je suis le seul client. C'est flippant. Tenir, résister coûte que coûte. Les Grecs connaissent, leur histoire le prouve. Changer les mentalités, pourquoi pas, si cela permet de survivre. Betty Tsakarestou, sociologue et professeur à l'Université d'Athènes, y croit. L'auteur de ce graffiti aussi.
Je dirais que depuis 2 ans, j'ai vu les Grecs, mes concitoyens, mais aussi moi-même, passer par différentes phases. Il y a d'abord eu la stupeur, le choc, puis l'indignation. Mais maintenant, nous sommes dans une phase où on réfléchit sur les forces créatives qui existent dans ce pays. C'est ce qui me plaît beaucoup. De plus en plus de gens essayent de prendre des initiatives nouvelles. Je reprendrai une formule qu'on entend de plus en plus souvent et qui dit « la crise est une opportunité ».
Est-ce qu'il y a une autocritique sur le comportement même de la population grecque ?
Oui, c'est le cas chez pas mal de Grecs. C'est dur d'un côté de se rendre compte de cela et aussi de l'accepter. Mais d'un autre côté, ça nous libère d'un poids.
L'électrochoc crise va-t-il révolutionner les mentalités de ce pays où on se la coule douce en fermant les yeux sur le coulage généralisé ? Prenons la fraude fiscale. Un quart de l'activité économique au moins échappe à l'impôt. Un manque à gagner de 40 milliards d'impôts l'an. Riposte tardive mais réelle de l'administration fiscale, la mise à disposition des citoyens d'un numéro d'appel spécial délation depuis 2 ans. Et ça balance. Dénoncer un tricheur devient un acte civique.
Oui, monsieur. C'est pour un cas de fraude fiscale ? Il ne donne pas de facture ?
Il ne donne ni note ni facture. Aucun reçu. À personne.
Il ne donne ni note ni facture.
Et ils font du commerce. Ils exportent du grain et d'autres choses. Et en plus, ils ont 2 voitures chacun. Et tous les ans, ils en achètent une nouvelle à leur copine.
Merci, monsieur. Merci et bonne journée.
Chaque jour, le service de Petros Semelis reçoit 100 d'appels de dénonciation. L'an passé, près de 20 000 cas de fraude ont été traités. Les conversations sont parfois surréalistes.
Chef, je peux vous poser une question ? Est-ce que les cimetières doivent donner des factures ? Les cimetières ?
Par qui ? Par la mairie ? Normalement, oui, ils doivent en donner.
Allô, vous m'écoutez ? La réponse, c'est oui. Logiquement, c'est la mairie qui doit vous donner une facture.
Bien sûr, la fraude, c'était un sport national. La plupart des gens ne payaient pas tous leurs impôts. Là où il y avait vraiment le plus de fraude, c'est chez les travailleurs indépendants. Des médecins, des avocats, il y en avait beaucoup qui ne fournissaient jamais de facture.
Une nouvelle loi prévoit une prime au délateur.
Bonjour.
Elle représente 10% du redressement, voire 25% si le fraudeur confondu est un fonctionnaire.
Quand les gens voient qu'ils payent leurs impôts et que d'autres les volent en ne les payant pas, ils commencent à comprendre que ce n'est pas mauvais de dénoncer les fraudeurs. C'est même une obligation.
Est-ce que vous connaissez leur numéro de registre fiscal ?
Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, là ?
On est pire que les talibans. On fait la guerre aux fraudeurs pour récupérer nos impôts. Parce qu'on croit que si on parvient à limiter la fraude, l'argent va rentrer et comme ça, on ne baissera pas nos salaires.
Bon, ce commando anti-fraude compte peu de soldats et leur équipement reste artisanal. Ils remplissent les fiches à la main, ça prend du temps, beaucoup de temps. La lutte anti-fraude n'a rapporté que 6 milliards d'euros en 2010. L'objectif fixé, dépasser les 9 milliards. Sur le fumier de la corruption et de la fraude, quelques fleurs éclosent pourtant. Des hauts fonctionnaires courageux et exemplaires sont bien décidés à nettoyer les écuries. Dans la construction, par exemple, les trois quarts des habitations sont illégales. Le bakchich est roi.
Bonjour.
Bonjour.
Margarita Caravasili est une héroïne, une empêcheuse de frauder en rond. Le numéro 2 du ministère de l'Environnement est un Elliot Ness en jupon. Ses agents ont repéré dans une zone forestière protégée deux maisons construites illégalement.
On essaye de tout ce monde-là qui ont fait de construction illégale de payer des amendes.
Margarita l'Incorruptible utilise tous les outils technologiques pour débusquer les arnaqueurs.
Cette région, on l'observe régulièrement par satellite. On a un relevé tous les mois et on compare les clichés. Voilà par exemple l'image avant et l'image actuelle. Et on peut voir le changement puisque cette construction est apparue.
En général, combien de temps ça prend entre ça et la démolition ?
Malheureusement, ça prend du temps.
Le propriétaire de l'une des maisons s'inquiète de notre présence. Il vient au contact. La discussion s'engage. La mauvaise foi est de mise.
C'était le terrain de son père.
Et toute la maison est illégale ?
Toute la maison est légale.
Et il le dit tranquillement ?
Sans permis de construire.
Vous vous êtes jamais posé la question de savoir si c'était normal de construire une maison comme ça, sans aucun permis de construire. Ça vous paraissait naturel ?
Moi, je ne suis pas au courant de ces lois. J'ai quitté la Grèce quand j'avais 13 ans. Mais si une partie de la maison est illégale, je la démolirai. Mais en partie seulement, pas tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ne me coupe pas la tête.
Régulariser ces infractions, pour Margarita, c'est loin d'être gagné. Les patrons de la politique et du business renâclent. Ces prises de position contre des élus qui avaient construit illégalement ont dérangé en haut lieu. Virée par le précédent gouvernement, elle a réintégré son poste à l'arrivée de Papandréou. Elle garde sa méfiance et sa détermination.
On fait vraiment tout ce qu'on peut, jour et nuit. Sans argent, sans moyens, sans beaucoup de
avec, choses. Avec, c'est ça, une motivation
Et ça, c'est pas beaucoup. C'est déjà, c'est très peu, je le sais.
Mais c'est le début.
Mais ça, c'est le début, et ça donne des messages.
C'est fini de rigoler, quoi.
Oui, c'est fini de rigoler. C'est fini de rigoler.
Chiche, réplique l'Europe et le FMI qui attendent de voir et s'impatientent. Comment demander d'immenses sacrifices à la population ? Comment rembourser et faire repartir en même temps l'activité économique ? L'équation paraît insoluble. Heureusement, dans ce périple où tout un peuple est mis au piquet, j'entends encore et encore ces notes cristallines qui disent que la vie doit rester la plus forte. Bravo aux chanteurs de l'Opéra d'Athènes et bon courage aux Grecs.